have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous, ravie de vous retrouver pour cet échange qui va durer 30 minutes autour d'un thème qui, j'en suis certaine, va vous passionner. Pour ses détracteurs, il est raciste, misogyne, xénophobe, vulgaire et a des vues courtes. Et pourtant, il a raflé les primaires républicaines dont le dernier épisode dans l'Indiana l'a vu écraser son adversaire le plus coriace, le sénateur Ted Cruz. Lui, vous l'aurez reconnu, c'est Donald Trump, l'homme d'affaires, le milliardaire et désormais l'image du camp républicain dans la course à la présidentielle américaine. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit ou presque, il reste encore des éléments à éclaircir pour comprendre la figure de Donald Trump. Et c'est justement le thème de notre L'Amérique et vous aujourd'hui. Qui est Donald Trump? Comment expliquer son succès? Comment expliquer aussi son succès auprès des Latinos, des Afro Américains et plus loin des Africains. Évidemment, pour attaquer une telle montagne, il fallait un peu d'aide et nous avons un spécialiste, nous avons la chance d'avoir un spécialiste de la politique américaine, maison, Idrissa Seydoudia, qui a bien voulu accepter de nous apporter ses lumières. Bonsoir Idrissa.
Bonsoir Anastasie.
Et merci d'être avec nous. Nous avions demandé, et il avait accepté, au professeur Leonard Wanchekun de nous rejoindre, mais il semblerait qu'il y ait quelques difficultés techniques. Nous verrons ça un peu plus tard. Le standard de VOA Afrique, vous êtes ouvert, évidemment. Votre point de vue nous intéresse particulièrement. Appelez-nous au 001 202 619 31 40. 001 202 619 31 40 pour nous dire ce que vous pensez de Donald Trump, ou peut-être pour profiter de la présence d'Idrissa Seydoudia pour lui poser des questions sur ce candidat et sur ce paysage politique américain qui n'en finit pas de nous étonner. Première question, Idrissa, personne n'a vu venir cette victoire écrasante, incontestable. Entre journalistes, on dit Trump, on sourit, on dit off, ça va s'essouffler, off. Il n'ira pas jusque-là, et pourtant.
Et pourtant, et exactement, c'est ce qui s'est passé, parce que même ses concurrents
ne l'ont absolument pas pris au sérieux.
Non, ils pensaient que ça ne durerait pas et que c'était un plaisantin et qu'au bout de quelques mois, ça disparaîtrait.
Soyons honnêtes, nous étions quelques-uns à penser ça.
Ah non, je crois que tout le monde pensait la même chose.
Sauf ses électeurs.
Oui, Ted Cruz, par exemple, au début, il ne voulait surtout pas les critiquer, il ne voulait rien dire à ce sujet, même quand il a commencé à voir que Donald Trump quand même traînait des foules. Il s'est abstenu de le critiquer, il l'a même invité ici au Capitole, à Capitol Hill, pour participer à une campagne anti-Obama, anti-establishment et tout. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas s'aliéner les partisans de Donald Trump en disant « bon, il va tomber un de ces jours et puis je pourrai récupérer tous ces gens-là ». Bien entendu, il s'est gouré comme tout le monde et
il
le voilà maintenant.
Calculs. Il a fait de mauvais calculs. Comment expliquez-vous? Vous connaissez parfaitement les États-Unis, vous y êtes depuis une trentaine d'années. Comment expliquez-vous la montée d'un tel personnage ?
Bah, écoute, je crois que le public est un peu, surtout le public républicain, un peu déçu de ces leaders. Parce que, bon, il y en a beaucoup là, au sein de ce parti, qui en voulaient à Barack Obama. Et ils pensaient que, bon, en donnant la majorité aux républicains dans les deux chambres du Congrès, ils pourraient faire front et s'opposer à la politique et même faire échec aux politiques de Barack Obama. Ça n'a pas marché.
Il n'en a rien été.
Voilà. Alors maintenant, ils pensent que la solution, c'est un non-politicien, quelqu'un qui n'appartient pas à l'establishment et qui pourrait offrir des solutions. Bon, mais quelles solutions? Parce que Donald Trump n'a pas été très précis dans ce qu'il compte faire. Il a dit rendre, restituer à l'Amérique sa grandeur.
L'Amérique d'abord, c'est son, voilà, c'est son mais, grand slogan.
N'est-ce pas? Mais au début, il a parlé de restituer à l'Amérique sa grandeur, construire ce grand
ce mur. Ce fameux mur.
Voilà, pour tenir à l'écart les Hispaniques qu'il a traités de tous les noms, etc.
Mais alors justement, il y a quand même des Hispaniques qui endorsent, qui sont pour Donald Trump. Comment ça s'explique ça?
C'est
l'autoflagellation?
Non. Il faut dire que ce n'est pas un groupe monolithique. Il a parlé spécifiquement des Mexicains. Mais parmi les Hispaniques, il y a les Cubains américains.
Qui, eux, ne sont pas concernés par ces propos.
Ne se sentent pas, sans doute pas concernés par ces propos. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que les sondages. Il y en a, bon. On trouvera même des Noirs qui appuieront, Donald Trump.
Et oui, on les a vus et ils ont témoigné publiquement.
N'est-ce pas? Et pourtant, il y en a qui ont été choqués quand on lui a posé une question sur un leader du Ku Klux Klan et qui l'appuyait. Il a dit qu'il ne connaissait pas ce monsieur. Alors, c'est qui a plutôt surpris les gens. Donc, on trouvera des gens dans tous les groupes, y compris les femmes.
Y compris ceux que ces propos visent.
Exactement.
Les femmes, les Noirs, les Latinos.
Les Hispaniques, etc. Alors, c'est une réalité. Mais les sondages, de façon générale, montrent que plus de 60%, dans certains cas 70% de gens ont une opinion assez négative de lui. Bon, Hillary Clinton, on ne va pas parler d'elle ce soir, mais en fait, Hillary a aussi quelque chose de très négatif aussi. Elle n'est pas très populaire.
Elle lui sert de repoussoir d'une certaine manière?
On va voir ce que ça va donner. Parce que
du coup, maintenant, plus personne n'ose se prononcer.
Non, je crois qu'avec cette année électorale,
ça va être l'année de
ce qu'on a vu, on n'a jamais vu quelque chose de pareil. Et quelqu'un qui ne donne pas de position très claire sur les grands sujets de l'heure.
Puis la politique étrangère, on a l'impression qu'il a quand même du mal à situer les pays et les noms sur les cartes. Ce qui est quand même problématique à l'heure où on essaie de lutter contre le terrorisme. Oui, il vaut mieux ne pas se tromper d'ennemi, non?
On a bien vu Barack Obama, lors d'un dîner de la presse, qui s'est un peu moqué de lui, en disant « il connaît la politique étrangère.
Oui. »
il a rencontré les Miss, etc. Parce qu'effectivement, Miss Universe ou Miss America lui appartenait, n'est-ce pas? En tant qu'homme d'affaires, c'était un programme qui lui appartenait. Alors, il a tenu un discours je ne sais pas, c'était il y a peut-être 2 semaines, ici à Washington.
Oui, c'était il y a 2 semaines.
Un discours sur la politique étrangère, mais de la vie générale, c'était bourré de contradictions. On voyait que nettement, il avait besoin d'apprendre un peu plus sur ce dossier.
Bon, alors, pour ce qui est des contradictions, il ne serait pas le premier homme politique à en être perclus, mais reste à voir. Bon, on a du mal quand même à appréhender ce mystère. Bonne nouvelle, le professeur Wanchekon est avec nous. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, professeur Wanchekon.
Oui.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Vous êtes professeur de sciences économiques et politiques à l'Université de Princeton.
Oui, exactement.
Alors, nous avons commencé avec Idriss Adia à essayer d'approcher le mystère de la réussite jusqu'ici de Donald Trump, d'un point de vue politique, du moins. Comment est-ce que vous, l'enseignant que vous êtes, comment est-ce que vous expliquez qu'un homme qui n'a pas fait de politique arrive à rallier autant de voix autour de lui, surtout en tenant des propos assez éloignés de l'équilibre que les hommes politiques tiennent d'habitude?
Oui, bon, d'abord, il faut dire qu'il est une célébrité. Donc, il avait un capital de célébrité très, très élevé. Il était très connu. Ça fait un, de deux. Il a choisi son audience. Donc, il y a une bonne partie de l'électorat qui est très frustré, qui a très peur. Et il a capitalisé là-dessus, quoi. Bon, capitalise également sur le fait que ses opposants étaient très, très divisés. Il y avait 17 candidats au début, donc il a pu s'imposer dans ces conditions-là. Donc, je pense que c'est d'abord sa personnalité, sa popularité, bon, étant donné qu'il est une célébrité, quoi. Donc, qui l'a poussé jusque-là.
Mais alors là, du coup, c'est, ce que vous dites est très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Idrissa, mais c'est une recette très américaine, finalement. Un mélange de pop culture, d'une certaine manière. Et ça, c'est un ingrédient qui peut fonctionner peut-être beaucoup plus ici que dans d'autres pays au monde. Et parce que pour ce qui est de la frustration et d'un certain électorat, on peut retrouver ça un peu partout. En Europe, c'est pareil. Et c'est ce qui fait la montée des populistes, au fond.
Oui. C'est moi ?
Oui.
Ah oui, c'est ça. Non,
donc c'est une recette très américaine, ce succès, en fait.
Ah oui, c'est bien, c'est ça. C'est bien ça. C'est très bien ça. Et puis, en fait, il y a aussi le fait que les gens ont de plus en plus de dédain pour le politicien traditionnel, qui n'est pas toujours clair dans ce qu'il dit, qui fait des jeux de mots, qui change de position tout le temps. Donc, il y a le fait qu'un certain électorat préfère des gens qui disent exactement ce qu'ils pensent. Voilà.
Idrissa Seydoudia
dégage une certaine assurance et une certaine force. Voilà. Donc, mais déjà, il faut dire que ce n'est quand même pas, c'est déjà rassurant que ce n'est pas la majorité de l'électorat américain. C'est-à-dire il y a quand même l'écrasante majorité donc, de l'électorat américain qui a une vue négative donc, de Donald Trump. C'est ça. Donc, il faut pas oublier cela.
D'accord. Ne généralisons pas, ne nous emballons pas trop vite. Idrissa Seydoudia.
Oui, je voulais dire que, en fait, le fait qu'il ait eu ce qu'on appelle, qu'il ait été une vedette de ce qu'on appelle la réalité télé, avec son programme The Apprentice, comme je sais que ça a été traduit ailleurs en Afrique ou dans le monde francophone, ça en fait une célébrité. Mais la célébrité n'explique pas, comme l'a dit le professeur Van Tjekkon, le succès qu'il a eu, parce qu'il y a eu avant lui des célébrités, des gens qui étaient bien connus dans ce pays et qui n'avaient pas pu percer. Il y a la réalité que, bon, il y a la déception du public républicain à cause de ses leaders et de tous les atouts qu'ils ont donnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ses leaders et au Congrès en leur donnant les deux chambres, et ça n'a pas donné grand-chose face à Barack Obama. Il y a ça, il y a aussi la peur du terrorisme et il a exploité.
Sur laquelle il joue.
Et oui, il a exploité ça. Il a parlé aussi d'un changement que tout le monde voit, mais il n'a pas offert de solution parce que les boulots qui vont en Chine, qui vont au Mexique, et ainsi de suite, ça c'est la transformation de l'économie américaine.
Ah, il a dit « je serai le plus grand président créateur d'emplois de l'histoire ».
Oui, il peut le dire, mais la réalité est autre.
Et il a qualifié les politiciens d'imbéciles.
Le professeur Van Tjekkon, qui s'occupe d'économie, sait que vraiment, l'économie américaine qui était fondée sur la manufacture n'est plus ce qu'elle était dans le temps.
Mais alors attendez, ce qui est intéressant et à la fois peut-être inquiétant pour qui n'est pas républicain, c'est qu'au fond vous nous dites qu'il a une avenue Donald Trump, parce que visiblement ses opposants n'arrivent toujours pas à se réunir. La situation économique globale ne va pas se rétablir d'ici le mois de novembre, donc il a vraiment un boulevard.
C'est ça, mais il ne faut pas oublier que en fait il n'a pas été... En fait, il aurait... J'allais dire quoi. Il a peut-être laissé ça se passer une chance. Parce que tous ses atouts, le fait qu'il ait une célébrité, le fait qu'il y a, disons, un vide de leadership dans le Parti républicain, tout ça, il a capitalisé sur tout ça et là où il est. Mais le drame, c'est que ce faisant, il s'est fait tellement d'ennemis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les latinos qu'il a insultés, les musulmans qu'il a insultés, les femmes qu'il ridicule,
qu'il insulte aussi régulièrement. Oui.
Et donc finalement, il fait creuser sa propre tombe. Donc il y a un côté de sa personnalité qui lui a permis donc de capitaliser sur les faiblesses de ses ennemis. Il y a l'autre qui en fait l'isole quand même de plus en plus donc de l'autre partie de l'électorat, quoi, qui est plutôt...
C'est cette brutalité...
Plutôt, plutôt à gauche, voilà. Donc, plutôt à gauche ou plutôt centriste.
D'accord.
Donc, finalement, en fait, c'est quelqu'un qui, au fond, aurait pu, avec le tempérament qu'il fallait, avec le tempérament et avec une certaine mesure, avec une certaine pondération, aurait pu avoir plus de succès qu'il ne l'est.
D'accord. Ce que vous êtes en train de nous dire, professeur, c'est que c'est la personnalité de Donald Trump qui l'a mené jusqu'ici, mais c'est la même personnalité qui pourrait précipiter sa chute. Idrissa Seydoudia, après on prend un auditeur.
Oui, c'est vrai dans la mesure où ce qu'il a fait, en tout cas au sein du Parti républicain, ça l'a beaucoup aidé. Et je n'ai pas l'impression qu'il va changer, puisque ça l'a aidé à accéder là où il est maintenant. Mais les élections générales, c'est autre chose. Il faut atteindre beaucoup plus de monde, un monde beaucoup plus diversifié, un électorat beaucoup plus diversifié. Et exactement. Ça, c'est pas certain. Et même au sein du Parti républicain, on a vu par exemple les anciens présidents Bush qui
disent de
exactement.
Suivre.
Mitt Romney, qui était le dernier candidat républicain, a refusé de l'appuyer. John McCain a dit qu'il n'ira pas non plus à la convention républicaine. Mmh. On a vu aussi, paraît que Bob Dole y sera, mais Bob Dole y remonte. Et il n'était pas tendre non plus avec Donald Trump. Je ne sais pas pourquoi il y va, mais on verra. Toujours est-il que, et le président de la Chambre, l'influent président de la Chambre des représentants, qui présidera la convention républicaine à Cleveland, a dit cette semaine qu'il ne voit pas comment, pour le moment, il pourrait appuyer Donald Trump.
Au standard maintenant, voyons ce que nos auditeurs en pensent. Au 001-202-619-3140, bonsoir. Allô ?
Bonsoir.
Bonsoir, qui est là ?
Oui, bonsoir.
Qui est là ?
Oui, je vous appelle de Massakouri au Tchad.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Donald So.
Bonsoir Donald. Alors, vous êtes le bienvenu, dites-nous.
Allô ?
Oui, nous vous écoutons.
Ah oui, je vous écoute.
Qu'est-ce que vous pensez du candidat Trump ? Est-ce que c'est le candidat idéal pour l'Amérique ? Est-ce que c'est le président idéal pour l'Amérique ?
J'aime personnellement Donald
oui.
Trump. Je le suivais bien, son programme qu'il lançait. Et quand il affirmait que le Tchad, les Africains sont des paresseux, je trouve que c'est normal parce que les dirigeants africains ne cherchent que aller se supplier les Occidentaux pour venir investir. Et après tout ça, ils entourent leurs parents et pour tout piller cet argent qui doit destiner au peuple. Et en toute violation de règles de l'art.
Donc ce que vous aimez chez Donald Trump, c'est que vous supposez qu'il fustige les dirigeants, les dictateurs africains. Simplement, les propos auxquels vous faites référence, on les a prêtés à Donald Trump, mais il n'a pas été établi qu'il les avait réellement tenus. C'est une interview que prétendument il a donnée, mais il n'a pas été établi qu'il avait dit ça.
Allô ?
Vraisemblablement, c'est un faux. Mais en tout cas, qu'est-ce qui dans son programme vous plaît ?
Son programme me plaît parce qu'il va arrêter beaucoup de choses qui vont se passer en Afrique. Personnellement, je vois que même au Tchad, dans mon pays que je réside, absolument, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand Donald Trump, c'est les Américains, Donald Trump, tous les dirigeants occidentaux qui soutiennent de loin ou de près les dirigeants africains et qui ne font rien pour leur peuple et qui continuent à diriger.
D'accord.
Et Donald Trump peut quand même les ramener à la raison.
Merci beaucoup, Donald, pour votre intervention. On va faire réagir nos deux invités, Idrissa Seydoudia.
Oui, je crois que Donald Trump n'a pas fait de déclaration. À ma connaissance sur l'Afrique.
Pas que je sache.
N'est-ce
non.
pas non. Je crois que.
Non, ben on va demander au professeur Wonchekon. Allô ?
Professeur ?
Allô, professeur ?
Ensuite, c'est que, bon, il ne considère pas l'Afrique du tout comme. Un continent digne d'intérêt pour lui-même ou pour l'Amérique. Donc, et puis bon, le troisième point, c'est que voilà, c'est un peu. Moi, je pense que l'auditeur, sa question illustre un peu bien pourquoi vous pouvez avoir certains Américains qui soutiennent. Trump, parce que bon, on lui prête des choses qu'il n'a pas dites. Mm-hmm. Et puis ensuite, l'autre chose aussi, c'est que les gens n'ont pas toute l'information sur lui, quoi. Voilà. Donc, on s'attache peut-être à une chose qu'il a dite, ou bien on s'attache à, disons, à l'image qu'il projette. hein, pas à l'ensemble de sa personnalité. Donc ça peut expliquer pourquoi, par exemple, même dans ce pays, il y a des gens qui, en fait, ne devraient avoir aucun intérêt à supporter Trump.
Et qui le supporte quand même. Très bien. Alors prenons un autre auditeur au standard de VOA Afrique. Nous sommes avec un autre auditeur et il s'appelle Alphonse. Bonsoir Alphonse. Alphonse, êtes-vous là? Allô, on vous entend très mal Alphonse. Vraiment, la communication est trop mauvaise. On essaiera de vous joindre un peu plus tard, Alphonse. N'hésitez pas à continuer à nous appeler, qui que vous soyez, au 001-202-619-3140, comme Ablaï. Bonsoir, Ablaï.
Bonsoir.
Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce candidat Trump?
Non, moi, comme vous avez écrit au niveau de la page, je pense que c'est un peu exagéré, quoi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, non, en disant qu'il va construire un mur au niveau de la frontière avec la Russie.
Vous trouvez que, cette idée du mur pour tenir les migrants, les immigrés mexicains loin des États-Unis, c'est une exagération, c'est ce que vous dites?
Ah, bien sûr.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Moi, je dis qu'il va peut-être les refouler de leur territoire.
Je ne comprends pas très bien. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Allô?
Allô? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Non, je voulais dire qu'il n'a pas un agenda politique.
D'accord.
Bien sûr.
D'accord, qui n'a pas d'agenda politique. Merci, Ablaï.
En fait, il a fait allusion au mur qu'il veut construire pour tenir à l'écart les Hispaniques.
Oui.
Abdoulaye aurait pu aussi parler, n'est-ce pas, des 11 millions d'illégaux, entre guillemets, qu'il veut déporter ou expulser du pays.
Alors, ainsi que l'interdiction d'accès au territoire,
temporaire,
du territoire américain aux musulmans.
Aux musulmans. Alors, il y a tout cela. Bon, si on veut combattre le groupe État islamique, il aura besoin des musulmans, comme ont souligné certains de ses adversaires bien avant qu'il n'ait la victoire pratiquement dans ses primaires. Alors, beaucoup estiment que ce n'est pas réaliste de dire qu'on va construire ce mur et que le Mexique lui-même va payer pour ça. Alors, enfin.
Il est encore moins probable que le Mexique paye. Professeur Wanchekon, ce qui est assez intéressant dans l'évolution de cette discussion, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de déconstruire les propos de Donald Trump, le constat est le même. C'est pas très sérieux, ça ne tient pas la route, ça ne va pas très loin. Et pourtant, son succès est une réalité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de culture ?
En fait, l'électorat est divisé.
Oui.
L'électorat est divisé. Donc, par exemple, la question de l'immigration illégale, il y a des gens qui sont des deux côtés. Donc, il a choisi son camp, lui. Il a choisi son camp, des gens qui sont entièrement opposés à l'immigration, notamment l'immigration venant du Sud. Voilà, sur la question donc des musulmans, il a joué la division donc entre les musulmans et les autres, les Américains des autres religions. Mm-hmm. Voilà, donc il s'est choisi son camp, choisi et caricaturé les choses afin de pouvoir, arracher donc le soutien donc des gens de ce camp-là. Et comme et ça l'a dit tout à l'heure, c'est que ça marche très bien pour lui, donc dans les primaires, mais ça ne va pas marcher dans les élections générales.
Les primaires, c'est une chose, les élections générales, une autre.
Parce que plus de 31%, 32% maintenant des Américains sont des gens qui ne sont pas des Américains blancs. Donc il y a les Noirs, il y a les Hispaniques, il y a les Asiatiques. Alors donc, lorsque on se met en porte-à-faux avec cet électorat, on n'a pas de chance.
On a des difficultés. On a bien vu du côté des démocrates, entre Hillary Clinton et le sénateur Sanders, que le vote noir a été apaisé et a aidé Hillary à remporter.
En fait, ce qui s'est passé après la dernière élection présidentielle remportée par Barack Obama et la défaite de Mitt Romney, le Parti républicain a fait une étude. Et cette étude a révélé que sans le soutien des Hispaniques et des minorités, le Parti républicain ne peut pas gagner. C'était le verdict du Parti républicain lui-même. Alors, on se demande comment, sur la base d'une telle étude, des résultats d'une telle étude, quelqu'un se réclamant du Parti républicain peut arriver là et insulter pratiquement toutes les minorités.
Son électorat, finalement.
Voilà, exactement. Parce qu'il est dit qu'en tout cas, les études ont prouvé que sans l'apport, qu'il ne peut pas, comment dirais-je, remporter, le Parti républicain ne peut pas remporter une élection avec seulement les voix des Blancs.
Ça laisse vraiment le mystère demeure entier, puisque quand même, Donald Trump a remporté les primaires. Donc, face à un électorat noir et enfin avec des minorités,
mais ça,
qui n'auraient donc pas voté pour lui.
C'est dans le cadre du Parti républicain.
Oui.
Et le Parti républicain n'est pas connu pour la grande tente pour les minorités.
Non, absolument.
Exactement. Professeur, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, qui est-ce que vous voyez ? Il nous reste quelques minutes. Donc, qui est-ce que vous voyez ? Oui. Qu'est-ce qui pourrait stopper Donald Trump ? Ou qu'est-ce qui pourrait, d'autre part, le propulser ?
Bon, en fait, je crois que, en tout cas, je serais très surpris qu'il aille plus loin qu'il l'a été déjà.
Mmh.
Étant donné, je pense que, en fait, il a su maximiser ses chances au niveau de l'électorat blanc, du Parti républicain, anti-immigration, anti-étranger, tout le reste.
Très bien.
Maintenant, il a créé suffisamment de fossés entre lui et tout le reste, que je pense qu'il s'est arrêté lui-même. En fait, c'est son passé qui le rattrape.
Très bien, donc on peut s'attendre à un effet, si on vous suit, professeur, on peut s'attendre à un effet boomerang. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, de nous avoir apporté vos lumières. Merci également à Idrissa Seydoudia et à vous autres, auditeurs, qui avez bien voulu nous porter vos voix. Restez sur VOA Afrique.